Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse Loisirs, le club du vendredi qui vous propose des idées pour votre congé de fin de semaine, cuisine, décoration, jardinage, lecture, activités sportives et mille autres choses. Et ce matin, des conseils pour bien choisir son vin dans les foires au vin partout en France, chez les cavistes et en grande surface. Quels sont les pièges à éviter, comment faire de bonnes affaires et ensuite comment briller lors du déjeuner dominical quand vous dégustez un verre de vin en utilisant le vocabulaire adéquat. Avant cela, les journalistes Christina Pelledouel et Julien Bisson vous proposeront des fictions qui font du bien. Le chef Grégory Cohen vous régalera avec l'un des plats préférés de notre Jean-Paul Belmondo préféré. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
C'est bien lui, bonjour Ali.
J'étais sur Jean-Paul Belmondo là,
c'est
vous voyez.
La confusion est possible.
La confusion est très possible. Un jour, vous nous ferez peut-être une philosophie du vin. En attendant, quel est le menu de votre chronique philo ?
Eh ben, une question, Ali, et une réflexion pour savoir si, après votre décès, bien sûr, vous aurez droit, vous, à un hommage national.
C'est peu probable. Bonjour, Guillemette Audicino.
Bonjour, Ali.
Votre nouvelle chronique, c'est L'ami du vendredi. L'ami du vendredi, c'est un personnage de fiction qui mérite toute notre amitié. Après Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, qui deviendra notre ami cette semaine ?
Eh bien, j'espère que ce sera Arsène Lupin, puisque Arsène n'assène jamais sa virilité.
Bonjour Maya Mazorette.
Salut Ali.
Qui ne supporte pas que je la vous voie pendant l'émission. Je vais boire votre chronique à petite gorgée tout à l'heure.
Oui, absolument, parce qu'on parle de comment choisir son vin. Exactement, et moi je vais parler de comment choisir son homme. Et en fait, un petit peu tout dit, les pièges à éviter, le bon achat, et après comment briller au déjeuner dominical.
En grande surface, c'est possible aussi.
Oui, tout à fait, absolument.
Allez, nous attendons toutes vos questions pour bien choisir une bouteille de vin dans les foires au vin au 01 45 24 7000. Ou en nous laissant une note vocale. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien Vous Fasse.
Le vin, c'est d'abord un plaisir de le boire, d'abord de le faire rouler sur sa langue, sur ses papilles, de le déguster, de le flairer, puis de le boire. Et le vin vous donne quand même du tonus, vous donne du plaisir, vous apporte la sensualité au moment où vous l'avez dans la bouche, où vous le respirez. Donc c'est d'abord ça, le vin. C'est de l'histoire, c'est de la religion, c'est de la philosophie, c'est de la musique, c'est de la peinture, c'est de la chanson, c'est plein de choses, le vin.
Et tout à l'heure, nos experts vous donneront quelques clés pour parler aussi brillamment du vin que Bernard Pivot ou Guillemette Audicino. Bonjour Grégory Cohen.
Bonjour Ali Rébéi.
Ravi de vous retrouver. Vous êtes le premier chef invité à la Samaritaine à Paris, au restaurant Voyage, et ce à partir du 15 septembre. Bravo. Au menu, juste après la chronique de Thibaut de Saint-Maurice, l'un des plats préférés de Jean-Paul Belmondo.
Oui. Alors Jean-Paul Belmondo était d'origine italienne, ça tout le monde le sait, et donc il était fan de pâtes. Moi j'ai eu la chance, privilège de le connaître quand j'étais petit. Mes parents avaient un restaurant qui était rue de Verneuil et il habitait rue des Saint-Père. Et du coup, il se retrouvait avec Lino Ventura et on faisait dans notre restaurant qui était français, en fin de soirée, en second service, même en quatrième service, les pâtes avec Lino et Jean-Paul, et c'était mémorable.
Et on aura la recette tout
Mais
à l'heure.
Mais Lino, vous laissez faire les pâtes ?
C'est lui qui faisait les pâtes.
Ah, c'est bien ce que je me dis.
On est soulagé.
Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Non pas le sosie officiel de Jean-Paul Belmondo, mais de l'acteur François Civil. les productions devraient vous embaucher comme doublure. Et vous êtes accessoirement rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1.
D'ailleurs, une émeute devant François.
Vous êtes accessoirement rédacteur en chef de l'hebdomadaire Le 1. À la une cette semaine.
Média, la menace Bolloré. On se demande jusqu'où va aller l'emprise de l'industriel breton sur notre paysage médiatique.
Et vous allez nous conseiller un film d'animation dans quelques instants. Bonjour Christina Pelledouel.
Bonjour Ali.
Journaliste à Psychologie Magazine et autrice de ces livres qui nous font du bien chez Marabout. Et on commence avec vous. Vous avez choisi un livre d'Antonio Moresco publié chez Verdier. Ça s'appelle Les Ouvertures. 700 pages traduites de l'italien par Laurent Lombard.
Et oui, et on comprend pourquoi Laurent Lombard a mis quelques années pour traduire ce monument, parce que c'est non seulement 700 pages, vous l'avez dit, mais aussi une œuvre littéraire absolument hors norme, extraordinaire quant au style, extraordinaire quant au fond, magnifique, poétique. Et Laurent Lombard, je lui rends hommage, je ne le connais pas, mais il a vraiment fait un prodige de traduction. Alors, Antonio Moresco, c'est l'auteur de ce magnifique roman dont je vous avais déjà parlé, qui est intitulé La Petite Lumière, et puis il y a eu aussi Les Incendiés et d'autres, tous publiés chez Verdier. Et là, il poursuit son œuvre, qui est complètement à part, une œuvre sans égale dans la littérature italienne. Il est d'ailleurs célébré comme un immense auteur en Italie, pas encore en France, pas suffisamment à mon goût. Ce qui le caractérise, c'est le style, c'est son univers aussi, c'est l'étrangeté. Il est toujours à la limite de l'étrange. On ne sait pas très bien où on va. Tout est en suspens dans son écriture. Bon, alors là, ce roman énorme, Les Ouvertures, est une espèce d'autobiographie littéraire, mais en réalité, on s'en fiche complètement. Ça n'a strictement aucune importance, parce que il est question de lui, mais il ne le dit pas, et ça pourrait être tout à fait n'importe qui. C'est une œuvre humaine. Il faut savoir que Moresco est né dans une famille très pauvre, en 47, et très solitaire, et on retrouve ça tout au long de son œuvre, et en particulier dans celui-là. Alors, de quoi s'agit-il? Le livre, c'est trois grandes parties, qui apparemment n'ont aucun lien les unes avec les autres. Donc déjà, le lecteur est un peu mis sur le côté, un petit peu décentré. On est face à quelque chose qu'on ne comprend pas au début. On ne comprend pas de quoi il est question. Et le roman commence par une phrase absolument unique et extraordinaire en littérature. Je vous la lis. Moi, c'est la première phrase, hein. Moi, au contraire, je me trouvais très à l'aise dans ce silence-là. Et ça démarre comme ça. Donc, de quoi est-il question? La première partie, c'est un très jeune homme, donc on suppose que c'est lui, qui décide, il est au petit séminaire, et il décide de ne plus parler, de ne plus ouvrir la bouche. On ne sait pas pourquoi. On n'a aucune idée de qui est ce petit garçon ou ce jeune homme, où il se trouve. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas qui sont les personnages autour de lui. Il n'y a aucune indication psychologique. Et pourtant, la force, la puissance d'évocation du texte de Moresco est absolument inouïe. Alors, on plonge là-dedans vraiment comme en apnée. Et donc, cette première partie, il est entouré. On est plongé dans son silence. Il n'y a quasiment pas de dialogue, il n'y a que des impressions, des images, et peu à peu se dessine quelque chose. La deuxième partie sera celle de sa jeunesse, où la parole revient, il entre dans l'activisme politique. Mais on ne sait pas ni pourquoi, ni de quelle manière. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Et la troisième partie, là, c'est un tour de force absolument extraordinaire. On retrouve des personnages de la première partie, mais on les retrouve de manière très diluée, très suggérée, et tout est dans une espèce d'attente. Donc la troisième partie, c'est la question de la littérature et la question de son être écrivain, ou de lui étant écrivain, qui attend sans cesse de se faire éditer et publier. Et donc il attend qu'un éditeur auquel il téléphone sans arrêt, enfin lui réponde et lui donne rendez-vous. C'est totalement bouleversant, ce n'est rien de connu, et moi je vous assure que ce roman est un des plus grands de la rentrée littéraire, probablement un des plus grands de ces 10 dernières années, peut-être même davantage. Et je dis ici, et j'espère que là-bas à Stockholm, quelqu'un m'entendra, Moresco mérite vraiment, vraiment le prix Nobel, vraiment, pour l'ensemble de son œuvre qui est prodigieuse et magnifique. Poétique, j'ai oublié de vous dire, c'est une espèce d'onirisme poétique et poétique qui est...
Et c'est pour cela que ce livre va nous faire du bien ce week-end. Les Ouvertures d'Antonio Moresco, c'est publié chez Verdier et c'est traduit par Laurent Lombard. Julien Bisson, un film d'animation français pour toute la famille ce week-end. Vous nous proposez de plonger dans la jeunesse de Calamity Jane.
C'est bon, ils sont loin maintenant. Ça va, j'ai bien vu que c'était le shérif que vous vouliez fuir. Mais la prochaine fois, tu demandes. C'est compris?
Ouais, non, mais c'est parce que...
Et tu ne me réponds pas. Rarement vu une fille aussi mal élevée.
C'est pas une fille.
Bien sûr que c'est une fille. N'est-ce pas? Faut vraiment être un garçon pour pas s'en rendre compte.
Calamity, une enfance de Martha Jane Canary. Vous l'aurez deviné, malgré la voix d'Alexandra Lamy, nous sommes bien au Far West, en 1863, à l'époque des pionniers et des légendes de l'Ouest. Et parmi ces légendes, une femme, quasiment la seule d'ailleurs que l'histoire ait retenue, du nom de Martha Jane Canary, plus connue sous le nom, vous l'avez dit Ali, de Calamity Jane, et dont le réalisateur français Rémi Chaillet s'empare pour en dépeindre l'enfance fantasmée. Alors en 1863, Martha Jane a 11 ans et elle effectue la longue traversée du continent le long de la piste de l'Oregon avec sa famille. Sa mère est morte, son père s'est blessé et c'est l'aînée de ses filles donc qui doit prendre les rênes de leur chariot. Sauf que la petite Martha Jane, cette jeune adolescente, fait scandale dans le convoi très puritain qu'ils ont rejoint. Imaginez, elle porte des pantalons pour pouvoir monter à cheval, elle se coupe les cheveux à la garçonne et elle a tendance à pas vraiment se laisser faire par ses congénères. Mais elle est un jour accusée d'avoir volé des biens de valeur, chassée du convoi, et c'est là le début d'une série d'aventures et de mésaventures incroyables, de rencontres avec les bêtes et les hommes, aux côtés d'un autre jeune affranchi, auprès de qui elle se fait d'ailleurs passer pour un garçon. Alors cette seconde moitié du film, disons-le, est sans doute totalement imaginaire. Ça n'est sans doute pas arrivé dans la véritable enfance de Calamity Jane, d'où ce titre « Une enfance » de Martha Jane. Mais de toute manière, Calamity Jane elle-même avait pris l'habitude d'inventer sa propre vie, d'écrire sa propre légende. Alors, pourquoi pas remplir quelques trous dans la biographie avec ce western féministe au rythme endiablé qui habille son thème de l'émancipation, de la lutte contre les stéréotypes avec un humour et une émotion à chaque fois parfaitement dosés. Et puis, on n'aurait rien dit du film sans en saluer la beauté graphique. À l'heure du numérique et de l'adaptation, l'animation à l'ordinateur, on découvre ici un dessin à l'ancienne, tout en aplats de couleurs chatoyantes qui donnent leur majesté aux grands espaces de l'Ouest américain. Vous savez, ces grands espaces auxquels on rêve tous depuis un an et demi et dont on ne peut toujours pas rejoindre. Ces grands espaces qui sont des vrais tableaux et qui sont des personnages en tant que tels du film. Ces grands espaces à travers lesquels cavale la jeune Calamity. Bref, c'est une réussite totale pour Rémi Chaillet et son équipe, qui était déjà à la manœuvre sur un autre film d'animation tout aussi réussi, tout en haut du monde. Et ce n'est pas un hasard si le Festival d'animation d'Annecy lui avait remis son premier prix, le prix cristal du long métrage. En fait, la seule calamité, la véritable calamité pour le film, ça aurait été sa date de sortie. C'est trop peu de gens ont pu le découvrir en salle parce que ça fait partie de cette cohorte de grands brûlés du cinéma français, sorti en octobre 2020 à quelques jours d'une fermeture des salles qui allait durer plus de 6 mois. Il est désormais disponible sur les plateformes de vidéo à la demande, type MyCanal. Alors, courez, galopez, prenez votre chariot, je ne sais pas, mais ne ratez pas ce film incroyable. C'est à voir dès 5 ou 6 ans et bien plus tard. Bonheur garanti pour toute la famille.
Calamity, une enfance de Martha Jane Canary, réalisé par Rémi Chaillet, et vous l'avez adoré également, Guillemette. Hein.
Ah oui, c'est un film absolument magnifique, qui est drôle, qui est pétillant, qui est évidemment délicatement ou féministe avec des gros mots. Parce qu'elle dit plein de gros mots, Calamity, c'est vraiment trop mignon. Et je suis d'accord pour les couleurs, c'est un grand film fauve.
Les aplats chatoyants.
C'est un film fauve. C'est du fauvisme, c'est absolument somptueux. Ça a toutes les qualités de l'animation, ce film.
Merci pour ce conseil familial, Julien Bisson. Et il est 10h20, il est déjà l'heure de retrouver l'ami du vendredi de Guillemette Odissino.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger. Et
évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Et Guillemette Odissino, après Mrs. Dalloway de Virginia Woolf la semaine dernière, vous nous présentez un nouvel ami.
Et oui, chère Ali, chères auditrices, chers auditeurs, parmi mes très chers amis de fiction, ces amis qui ne me font jamais faux bon, qui ne trouvent pas que j'habite trop loin, ou qui ne m'annulent pas la veille par un simple texto, désolé, il faut que je vous parle d'Arsène. J'ai rencontré Lupin dans mon adolescence, mais il n'a jamais été question de différence de génération entre nous, car le temps n'a aucune prise sur lui. Devant les années, le divin cambrioleur se dérobe. Nous faisons de longues promenades en Normandie, et particulièrement à Étretat, bien sûr, où l'aiguille creuse reste son plus fameux repère. Mais aussi dans Paris, dont il connaît par cœur la cartographie. Arsène a habité dans tant de rues de la capitale, y compris certaines imaginaires. Nous arpentons tous les quartiers et j'aime sa démarche légère de monte en l'air, pendant qu'il me raconte en détail cette belle époque qui, évidemment, n'était pas si belle, juste une respiration entre deux guerres. Alors je sais, vous brûlez de savoir à quoi il ressemble vraiment. Je vous jure qu'après tant d'années d'intimité avec lui, je l'ignore encore. Lors de nos retrouvailles régulières, il peut arriver blond, brun, moustachu ou pas. Et même sa taille et sa corpulence ne sont jamais les mêmes. C'est quand même fou, alors que nous passons notre temps, nous, à nous créer une silhouette, un style, pour imposer notre personnalité, Arsène, lui, s'invente au jour le jour. S'il devait avoir un Instagram, il devrait en avoir 100. Je crois qu'il ferait même planter l'application. Bon, j'avoue ma vexation. À moi, son ami, il aurait tout de même pu montrer son vrai visage. Il déteste blesser les femmes, il a fini par m'expliquer, donc. Il n'est pas là pour être vu, mais pour être l'homme que vous voulez. Belmondo, un jour, si vous avez du chagrin. Delon, un autre. Ou Jean Rochefort, pourquoi pas. Du moment que cela vous fait plaisir. C'est le plus grand des acteurs. Et comme tout grand acteur, il fuit sa mélancolie, une enfance difficile ou ses peines de cœur, grâce à des déguisements et des cascades. À chaque rôle, il change de nom. Une cinquantaine de fausses identités, Prince Cernine, Don Luis Perena ou encore Raoul d'Andrézy, flic ou voyou. D'ailleurs, quand il répond à un interrogatoire, on dirait presque qu'il passe un casting.
Notez, greffier. Pour aujourd'hui, je me bornerai à un simple interrogatoire de routine. Voyons, quel est votre vrai nom, Lupin ?
Mon vrai nom ? Ah, cela dépend des jours. De la couleur du ciel, de la femme que j'aime, des moustaches du préfet de police.
Né en 1905 sous la plume de Maurice Leblanc, à cette époque bénie de l'explosion de la presse et des quotidiens qui tiraient à 1 million d'exemplaires chacun, Arsène Lupin est un homme de feuilleton papier qui trouva naturel de perdurer grâce aux traits de Georges Descrières dans un feuilleton télé. Même si ce caméléon adore me répéter que justement Jean-Paul Belmondo avait été envisagé pour le rôle, et aussi Jean-Pierre Cassel, Jean-Pierre, Jean Rochefort, Clarisse, Louise, Raymonde, Angélique, et bien sûr Joséphine, comtesse de Cagliostro. Tous ces merveilleux prénoms féminins qui jalonnent sa vie amoureuse dramatique témoignent sans conteste de l'hétérosexualité de mon cher Lupin. Et pourtant, un détail lui plaît particulièrement chez Georges Descrières. Dans certains épisodes de la série, on jurerait qu'il porte du rimmel. J'aime Arsène pour ce mépris du virilisme et sa manière d'être gentleman fluide. En quête constante d'identité. Il le disait lui-même il y a 116 ans, dans la première nouvelle du premier recueil de ses aventures. Moi-même, je ne sais plus très bien qui je suis. Pourquoi aurais-je une apparence définie ? Pourquoi ne pas éviter ce danger d'une personnalité toujours identique ? Mes actes me désignent suffisamment. On ne peut jamais dire « voici Arsène Lupin ». Mais l'important est qu'on puisse dire sans crainte d'erreur « Arsène a fait cela ». En fait, c'est toute la morale de Lupin. Point ne sert de paraître. Il faut agir à point.
Et vous pouvez réécouter, podcaster, partager l'ami du vendredi de Guillemette Audicino sur l'appli France Inter. Et vous pouvez évidemment lire tout Arsène Lupin en poche dans un instant. Comment choisir sa bouteille de vin pendant les foires au vin et comment bien en parler pour briller en société. Vous pouvez nous appeler au 01 45 24 7000. Tout au long de la semaine, Grand Main Vous Fasse a été préparé par Alexia Rivière, Camille Poux et Jalagui avec l'aide de Victorien Thomas. La réalisation a été signée Claire Destac. Avec à la technique cette semaine Johanna Gabric et Anne-Laure Cochet, programmation musicale Valentine Chedebois. Et on écoute les Clash. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day it's fine and next it's black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on.
decisions bugging me. Decision, they molest us. If you don't want me, set me free. Set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble.
Les Clash, Should I Stay or Should I Go? Grégory Cohen, allez-y.
Ah, j'adore. Should I Stay or Should I
Merci.
Go?
Merci.
Oh là là, on va rester en fait.
Il est croyant, il a de la cuisse.
Grand bien vous fasse.
Il attaque sèchement le palais, moi je pars de retour.
Ali Rébéi.
Vous servir.
Sur France Inter.
10h29, grand bien vous fasse loisir. Comment choisir son vin dans les foires au vin et comment bien en parler pour briller en société? Toutes vos questions au 01 45 24 7000. Bonjour Pierre Herbert, bienvenue.
Bonjour monsieur.
Bonjour Catherine Gerbeau.
Bonjour.
Vous publiez chez First Edition un livre ultra pédagogique, bourré d'informations, d'infographies, d'illustrations pratiques, Le vin en un coup d'œil. C'est un livre parfait pour tous ceux qui n'y connaissent rien dans le domaine du vin et ceux qui veulent approfondir leurs connaissances. Et Guimette Odissino veut me piquer le livre, elle l'orgne. Hein,
oui, mais il le lâche dessus, pas. Voilà.
Alors, rappelons que la France est le deuxième consommateur de vin au monde, hein, derrière les États-Unis et devant l'Italie. Selon France Agrimaire, 67% des Français consomment du vin, dont la moitié occasionnellement. 100 bouteilles de vin vendues en France, 82 sont achetées en grande distribution. Vous confirmez, Pierre Herbert?
Absolument, ce sont les chiffres. Donc la majorité des gens achètent leur vin en grande surface. Après, il y a d'autres canaux de distribution aussi, bien sûr, derrière. Les cavistes indépendants, les cavistes franchisés, les sites en ligne qui prennent de plus en plus d'importance. Mais le supermarché reste encore aujourd'hui le canal principal.
Qui se rend chez un caviste? Ça peut impressionner de pousser la porte d'un caviste, Catherine Gerbeau?
Oui, c'est vrai, ça peut impressionner, mais en même temps, c'est justement l'endroit où on va trouver un conseil personnalisé et on va pouvoir discuter, dire ce qu'on aime et vraiment bénéficier d'un conseil personnalisé qu'on n'a pas forcément dans un rayon de grande surface, parce que même s'il y a des responsables du rayon, c'est rare qu'on les croise quand on y va.
Alors on retrouve environ 5700 cavistes en France. À quoi ressemble un caviste idéal, Pierre Herbert?
C'est un caviste qui va déjà faire sa sélection lui-même. Je pense que ça, c'est très important, parce qu'après, pour pouvoir vendre son vin aux amateurs, qu'ils soient connaisseurs ou pas, il faut y croire. Il faut croire dans ces vins-là. Donc la sélection qu'il va faire est essentielle. Donc c'est quelqu'un qui va se rendre de temps en temps dans les vignobles, qui a l'occasion de goûter régulièrement et qui peut du coup vous faire découvrir lors de petites dégustations informelles qu'il va organiser chez lui, ou vous guider dans ses rayons et essayer de vous faire découvrir des petites pépites.
Guimette acquiesce.
Ah oui, non, je rêve même quasiment, là je suis déjà dans un vignoble. Non, mais je me posais la question de, est-ce que là on parle du petit caviste indépendant qui fait lui-même vraiment sa sélection? Est-ce que ça marche aussi chez les gros cavistes, dont vous voyez ce que je veux dire, le nom, est-ce qu'ils vendent tous la même chose?
Pierre Herbert.
Sur ceux qui sont en franchise?
Oui. Est-ce que c'est une grosse sélection qui est faite au-dessus d'eux et ils sont obligés de vendre dans leur magasin cette grosse sélection?
Ça dépend, mais c'est globalement ça. Mmh. Donc il y a surtout, en tout cas, un fonds de commerce qui va être identique. Et après, il peut y avoir, selon les boutiques elles-mêmes, une petite sélection en plus personnalisée. Mais le choix, il reste forcément plus limité. Il y a des engagements au niveau de centrale d'achat pour la France entière, parfois, ou une région. Ce qui ne veut pas dire que ce sont des mauvaises sélections. Il y a des très bonnes sélections aussi. C'est plus limité. Donc vous êtes forcément un peu plus orienté dans votre choix.
Quels sont vos conseils pour bien choisir, bien acheter son vin chez un caviste, Catherine Gerbeau?
Ben, je pense que déjà, il faut y aller en se demandant ce qu'on va y chercher. Parce que c'est quand même plus facile de discuter avec lui, de lui poser les bonnes questions si on a réfléchi un peu à si on voulait un vin pour emmener chez des amis, pour un dîner qu'on a préparé pour le soir même, ou alors un vin qu'on veut garder dans sa cave. Donc déjà, il faut être un peu au point là-dessus.
Alors, comment choisir son vin en grande surface? Alors, vous conseillez de repérer le principe de rangement. Il faut repérer ce que l'on recherche. Selon quels critères, Pierre Herbert?
Encore une fois, c'est vrai que ça dépend de ce qu'on veut essayer d'avoir. Est-ce que c'est pour un accord mets vin, par exemple, ou pour un cadeau ou autre? Mais après, les organisations en général dans les rayons, que ce soit de grands magasins ou des cavistes, c'est quand même très souvent par région, grandes appellations, parfois par couleur, éventuellement les champagnes souvent un petit peu à part. Après, pour vous débrouiller entre guillemets dans ce maquis d'étiquettes, c'est certain que c'est à chaque fois un peu un parcours du combattant, surtout dans les grandes surfaces. Donc, il faut essayer d'avoir vous-même déjà une cible, comme l'a dit Catherine, de prix aussi éventuellement, de typologie de vin. Est-ce que vous voulez un blanc sec, un blanc peut-être un peu liquoreux, est-ce que c'est plutôt un vin rouge léger, un vin rouge plus puissant, en fonction du plat que ça peut accompagner. Et ça va vous permettre déjà de déterminer, de limiter votre choix.
Petite astuce, on peut flasher le QR code où on peut photographier l'étiquette en utilisant des applications comme Vivino ou Tagavine, hein, Catherine Gerbeau.
Oui, c'est vrai que c'est des moyens qui permettent, quand on est perdu, d'avoir quelques infos en plus dans le rayon. Aujourd'hui, on peut aussi, avant de partir dans la grande surface, en repérant des choses dans leur catalogue, chercher sur Internet des informations, parce qu'on a quand même aujourd'hui cette chance de pouvoir accéder à énormément d'informations qu'on n'avait pas forcément, je pense, il y a 20 ou 30 ans, grâce à Internet.
Grégory Cohen.
Oui, alors c'est vrai que ces applications, elles changent complètement la vie, parce qu'elles nous permettent effectivement de flasher l'étiquette et du coup aussi d'avoir une référence de prix, parce que c'est important aussi, indépendamment de savoir quel type de vin on va vouloir avoir, quel est le budget sur lequel on va être, et du coup, des notations d'autres personnes. Et effectivement, en fonction des accords mes vins, de se dire, est-ce que j'ai besoin de prendre un vin avec du caractère
qui... Ça veut dire quoi, un vin avec du caractère?
Par exemple, si je vous fais du gibier, le gibier, c'est une viande qui est assez forte, et donc du coup, je vais mettre en face de ce gibier un vin qui est assez tannique, qui a une force, une puissance, qui fait qu'il va pouvoir contrebalancer et même peut-être même mettre en exergue les goûts du gibier que vous allez avoir.
Un Malbec,
c'est très bien ça.
Non, alors, oui, moi il y a un truc. Alors j'aimerais bien savoir une bonne fois pour toutes. Il peut m'arriver, ça m'arrive souvent. Je suis attirée, vous savez, par les étiquettes dorées, oui, où il y a marqué, il a gagné le grand prix de ceci, cela en 2017 et tout. Sauf que c'est marrant, il a gagné le prix sur l'étiquette en 2017, mais la bouteille, elle, c'est une cuvée de 2019. Donc, est-ce que ça marche quand même pour quand même apprécier en se disant que c'est quand même un vin et un bon propriétaire, un bon récoltant, ou il faut vraiment que ce soit la même année, ou alors ça marche pas?
C'est rassurant, les médailles, Pierre Herbert?
Non, en fait, c'est un peu un... C'est pas forcément des mauvais vins.
C'est un attrape-couillon. Vous alliez le dire.
Voilà, exactement. C'est-à-dire, c'est juste... Si vous voulez, pour participer à ces concours, les vignerons envoient aussi, bien sûr, beaucoup d'échantillons. Mmh. Et ce n'est pas forcément une garantie in fine de grande qualité, parce qu'il y a énormément de médailles qui vont être distribuées. Ça ne veut pas dire que c'est forcément mauvais, mais pour moi, ça n'apporte rien. Il ne faut pas regarder ça.
Une chose est sûre, le prix, hein, à moins de 3 euros, on passe son chemin, c'est ça? Mieux vaut miser sur un vin vendu entre 5 et 12 euros, Pierre Herbert?
Oui, c'est-à-dire, il ne faut pas rêver. un vin qui est fait à, excusez-moi, je suis un peu de bruit, mais si à un moment donné vous ne pouvez pas avoir un vin à 3 ou 5 euros qui représente un travail sérieux qui a pu être fait par des vignerons, donc il faut aussi pouvoir rémunérer le travail de ces personnes. Et donc au-delà, il faut vraiment avoir des vins, mettez quand même 7, 8, 10, 12 euros minimum, vous pouvez déjà faire des bonnes affaires. Et puis les foires aux vins, faut en profiter. Là, c'est en ce moment, donc vous pouvez, pour ces prix-là, avoir des vins qui normalement coûtent un peu plus cher.
Alors justement, les foires aux vins ont commencé. Ça va durer jusqu'à mi-octobre à peu près. Quels sont les commandements pour éviter les pièges? Donnez-nous quelques conseils, Pierre Herbert.
Bah, lors des foires aux vins, déjà, il faut essayer d'avoir un peu, peut-être là aussi, une stratégie en amont de savoir combien vous voulez. Dépenser au maximum, parce que ça peut aussi être risqué comme jeu. Après, il faut se renseigner déjà sur les différentes dates, les différentes personnes qui font magasins qui organisent ces foires au vin, que ce soit physique ou en ligne. Vous avez des calendriers qui se trouvent notamment sur le site de la Revue du Vin de France. Vous avez toutes les informations. Et après, quand vous êtes, si vous êtes sur place, là, je pense qu'il faut avoir l'idée de se dire, soit j'en profite pour acheter des vins que normalement je pourrais pas m'offrir parce qu'il va y avoir une promotion importante cette année. Il devrait y avoir des promotions importantes, on le voit déjà un peu comme l'année dernière aussi, pour vraiment faire revenir les consommateurs, alors que les foires aux vins avaient tendance un peu à décliner. Donc là, c'est vraiment positif. Et voilà, après sur les choix, soit vous allez vers des grands classiques, le Grand Château Bordelais ou certaines belles appellations, mais à des prix un peu réduits, vous en profitez. Soit c'est aussi l'occasion d'aller vers des nouvelles appellations, et ça c'est valable tout le temps, même aussi en dehors des foires au vin, mais d'essayer de découvrir des appellations un peu plus secondaires ou moins connues, mais qui en réalité là aussi recèlent des pépites.
Catherine Gerbeau, vos conseils pour bien choisir lors des foires au vin qui se déroulent actuellement dans les grandes surfaces et chez les cavistes?
Oui, je dirais comme Pierre qu'il ne faut pas hésiter à aller vers la découverte, en fait, parce que c'est aussi un moment où, justement, les foires au vin, ou les enseignes de grande distribution, les cavistes, cherchent à mettre en avant des choses un peu différentes de ce qu'ils vendent habituellement. Donc, c'est l'occasion de découvrir, parce que finalement, le vin, c'est aussi ça, c'est de la découverte.
Christy Lapelle-Edouelle.
Oui, je trouve très intéressant de nouer une relation avec un petit caviste, une relation quasiment personnelle, parce qu'il y a une part de psychologie, et si vous entamez un dialogue, il finit par connaître vos goûts, par vous connaître et par pouvoir vous diriger vers des vins qui soient intéressants et qui vous correspondent. Et justement, on parlait de découverte, qui vous permettent de découvrir, mais à bon escient, un vin, une appellation ou une région. Voilà. Et moi, j'adore aller chez les petits cavistes.
Et à contrario, pas se laisser intimider par certains cavistes qui vraiment ont leur préférence et qui nous écoutent pas du tout. Trouver la personne qui nous correspond.
C'est ça. C'est tout à fait ça.
Thibault. En fait, c'est comme pour avec un libraire, quoi.
Un peu. Et d'ailleurs,
conseil, c'est choisir sa bouteille comme on choisirait un bouquin.
Eh ben d'ailleurs, on pourrait inventer les cavistes libraires.
Ça doit exister, ça.
On dirait Bernard Pivot, là, Thibault.
Mais la différence aussi par rapport aux libraires, c'est qu'il y a un vocabulaire du vin qui est souvent un peu inhibant et dont on ne connaît pas toutes les nuances. Moi, je pourrais recommander une série de mangas qui s'appelle Les Gouttes de Dieu, par exemple. C'est une série de mangas sur le vin à travers un personnage qui découvre le vin, l'histoire du vin, l'histoire des grands vignerons. Et ça permet de se décomplexer un petit peu aussi, notamment pour les plus jeunes, d'arriver à acquérir tout ce vocabulaire.
Belle robe vermeille, un peu violette, bel éclat. C'est un Bordeaux, un grand Bordeaux. Un peu de pourriture noble en suspension. Les impuretés descendent lentement. Ce vin a 23 ans. C'est un 53, une très grande année. Le vin, c'est aussi le soleil. Ce vin a profité d'une belle exposition sud-ouest sur un coteau de bonne pente. C'est un Saint-Julien. Château Léoville-Lascaz, 1953. Exact.
Louis de Funès dans La Loue la Cuisse, Pierre Herbert, Catherine Gerbeau. Comment briller en société comme Louis de Funès en dégustant son vin après l'avoir acheté dans une foire? Vous avez quelques conseils, Pierre Herbert?
Je crois qu'en fait, pour rebondir sur ce qui a été dit juste avant, il y a Il faut pas être impressionné déjà par le vin. Tout le monde peut apprécier, tout le monde peut être capable d'en dire quelque chose. Donc il faut surtout pas se laisser impressionner par du vocabulaire juste pour briller. Si vous voulez, c'est vraiment d'abord ce que vous ressentez. Et ça, on est tous capables de le percevoir. Alors, on a des niveaux parfois de perception ou des habitudes, de l'entraînement qui fait que c'est plus facile. Mais tout le monde en est capable. Il faut vraiment le faire. On parlait de déguster un vin à table. La chose la plus facile quand on est à table, c'est de comprendre sur ces accords mets vins comment ça fonctionne. Et à un moment donné, c'est ce que vous ressentez en bouche. À un moment donné, en termes d'équilibre, ce que vous avez en bouche, est-ce que ça matche bien? Est-ce que vous sentez en termes d'acidité, en termes de tanin, en termes d'alcool? De chaleur en bouche, etc. Est-ce que ce sont des choses qui vous parlent? Ce sont du vocabulaire relativement simple qu'on peut tous comprendre. C'est des saveurs de base, on va dire, et qui permettent déjà de soi-même comprendre si ça convient bien. Est-ce que ce qui a été indiqué tout à l'heure sur un gibier, un vin un peu puissant avec des tanins forts qui se mêleront bien avec le gras de la viande, ou des saveurs fortes, etc.
En tout cas, rester soi-même quand on décrit le vin qu'on est en train de boire. Merci Catherine Gerbault et Pierre Herbert. Vous reviendrez pour d'autres sujets autour du vin. Le vin en coup d'œil est publié chez First. Allez, il est temps de siroter tranquillement. La chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser, hein. Personne. Jamais.
Alors ce matin, Thibaut de Saint-Maurice, vous revenez sur l'hommage national rendu hier à Jean-Paul Belmondo, mais vous nous rappelez également que Joséphine Baker entrera au Panthéon le 30 novembre prochain.
Oui Ali, alors je ne sais pas si ces deux-là se connaissaient, ni même s'ils se sont rencontrés une fois dans leur vie, je ne sais pas. Mais les voilà en tout cas tous deux réunis à quelques semaines de distance dans une même dynamique d'hommage et d'intégration à notre mémoire collective.
Tendre et cruel. Réel. Et surréel, terrifiant et marrant, nocturne et diurne, solide et insolite, beau comme tout.
J'ai deux amours, mon pays est Paris.
Alors la question que je voulais poser ce matin, c'est que faut-il faire pour mériter un hommage national ou une panthéonisation après sa mort? Ça peut être utile de savoir. Pourquoi elle et lui et pas d'autres? Est-ce qu'il y a des critères, une notice à suivre pour être sûr de mériter donc son hommage national? Alors faut-il être populaire? Oui, assurément, Belmondo et Joséphine Baker l'étaient, mais ça ne suffit pas. Si Aya Nakamura mourait demain, évidemment on ne lui souhaite pas, je ne suis pas certain que Pookie soit diffusé dans la cour des Invalides. Pookie. Faut-il avoir servi la France, l'avoir défendu ou contribué à faire rayonner son image dans le monde? Oui, assurément, mais là encore, si c'est une condition nécessaire, ce n'est pas une condition suffisante, sinon tous les fonctionnaires, tous les militaires, tous les artistes, tous les militants qui se battent pour des causes justes y auraient droit. Avouez que ça finirait par faire du monde.
Alors peut-être faut-il simplement avoir marqué l'histoire avec un grand H?
Oui, simplement. Alors assurément, là aussi, mais je ne suis pas sûr que ce soit un critère très simple à utiliser. Qu'est-ce que ça signifie, marquer l'histoire? À partir de quand ou de quoi on marque l'histoire? Et puis qui décide de la grandeur historique de telle ou telle personne? Voilà, on le voit, il est donc assez difficile d'avoir une règle claire et universelle pour décider qui mérite ou non son hommage national ou sa commémoration collective. Alors je vous propose d'aller faire un petit tour du côté de nos amis les philosophes pour leur poser la question, et le premier à lever la main dans ce cas-là, c'est l'ami Hegel et de sa conception du sens de l'histoire. Pour Hegel, l'histoire a un sens, c'est un grand progrès avec parfois des détours ou des ruptures, mais tout de même un progrès vers toujours plus de liberté pour les hommes. Et dans cette histoire-là, les grands hommes et les grandes femmes sont ceux qui, en menant leur propre barque, font pourtant avancer sans le savoir la barque de tout le monde. Hegel dit qu'ils sont les agents d'un but universel. Leurs passions, leurs actions sont des étapes qui font progresser l'histoire. Ils incarnent une synthèse parfaite entre un destin particulier et un horizon universel. Voilà, Belmondo est un acteur parmi d'autres, mais il est aussi l'acteur par excellence, un artiste à travers lequel le cinéma a progressé dans sa manière de raconter le monde et la vie. Joséphine Baker est une artiste parmi d'autres, mais forte de son art et de ses convictions, elle est aussi une résistante, une militante de l'égalité et de la justice. Elle a fait ce qui lui paraissait juste à elle, et à travers cette conception-là, eh bien le monde est devenu un monde meilleur. Le paradoxe de cette affaire, c'est donc que la grandeur ne se mesure que à la fin d'une vie et par ceux qui en ont été les observateurs. Il n'y a donc pas de règle à suivre pour être sûr d'avoir son hommage national. Désolé, Ali. C'est un choix qui appartient à ceux qui restent et qui, par là, contribuent à révéler le sens de notre histoire commune.
Et vous pouvez podcaster et partager la chronique philo de Thibaut de Saint-Maurice sur l'appli France Inter, Guimette.
Ah oui, mais je suis tout à fait d'accord. C'est ceux qui restent qui décident, parce que ceux qui restent, ils restent amoureux ou pas, admiratifs ou pas. Et le cas de ces deux personnes, pour des raisons différentes, on reste amoureux d'eux parce qu'ils sont une figure absolue de leur temps, chacun. C'est aussi le Panthéon, ça rend immortel. C'est aussi parce que grâce à eux, il y a certaines conceptions du monde qui restent immortelles.
Et Grégory Cohen, pour ce week-end,
ah oui,
c'est votre musique.
Musique.
C'est notre musique. Vous nous proposez de rendre hommage à Jean-Paul Belmondo avec l'un de ses plats préférés, les penne all'arrabbiata.
Alors les penne all'arrabbiata, l'arrabbiata ça veut dire mis en colère en italien, mis en colère pourquoi ? Parce que quand on mange ces penne, qui sont très très piquantes, normalement on devient tout rouge. Et donc ils ont trouvé ça drôle de dire si on est rouge, c'est qu'on est en colère. Pour faire ces penne pour 4 personnes, ça va être assez simple, il nous faut 500 grammes de penne rigaté, 5 litres d'eau, donc c'est 1 litre par 100 grammes, et c'est 10 grammes de sel par 100 grammes. Donc 500 grammes de penne, 5 litres d'eau, 50 grammes de gros sel, 1 kilo de tomates bien mûres. La cuisine, c'est souvent la cuisine anti-gaspillage, et la cuisine italienne en fait partie aussi. Quand on fait de la sauce tomate, c'est que les tomates deviennent trop mûres pour être consommées. Donc on va les faire en sauce tomate. Donc 1 kg de tomates bien mûres, si c'est plus la saison des tomates, eh ben vous allez prendre des boîtes de tomates concassées en conserve, c'est pas mal aussi. Il nous faudra 2, 3, 4, 5 piments, ça dépend. De votre degré de résistance. Clairement, cette recette, elle va vous donner chaud, je vous le dis, Maya. Voilà. Il faut 40 ml d'huile d'olive et 2 gousses d'ail. Alors, on lave et on monde les tomates. Alors, monder les tomates, c'est ôter la peau et les pépins. Un petit truc pour le faire très facilement, on fait une croix sur la tomate, on la met à tremper dans une casserole d'eau brûlante pendant 30 secondes, puis elle la met dans l'eau glacée. La peau va s'enlever très facilement, vous allez voir, un jeu d'enfant. Ensuite, on va couper la chair de la tomate en morceaux et on la met de côté le temps de peler l'ail. Une fois qu'on a pelé l'ail, on va la dégermer. La dégermer, c'est enlever la partie verte, vous savez, qu'il y a au cœur de l'ail. Cette partie qui est un peu indigeste. Ma grand-mère disait que l'ail, ça reproche. Ce qui est un euphémisme. Puis après, on va la ciseler.
J'adore cette expression. J'adore.
Oui.
Il y a un sketch là-dessus avec les sardines, ça reproche.
Bah voilà. Ensuite, on va ciseler finement l'ail. Et puis dans une sauteuse, on va verser l'huile d'olive. On va ajouter l'ail, les piments rouges. On va laisser cuire à feu doux, aller pendant 4 à 6 minutes. On va ensuite ajouter la pulpe de tomate, on va cuire ce coup-ci à feu vif pendant une quinzaine de minutes. On goûte, on voit si c'est un peu trop acide. Si c'est trop acide, on ajoute un tout petit peu de sucre. Du coup, ça va casser l'acidité. On laisse réduire la sauce d'un tiers. Et puis, on fait évidemment cuire les penne. Alors, généralement, ce qu'il faut faire pour que vos pâtes soient absolument excellentes et juste magnifiques à déguster, on va regarder le paquet des penne. On va lire qu'il y a 12 minutes de cuisson. En réalité, on va faire 11 minutes de cuisson à ébullition. Et la dernière minute, on va mettre les penne dans la sauce tomate, et du coup ça va les confire, ça va leur donner un petit côté imprégné. On retire du feu, on se régale, jamais un plat n'aurait si bien porté son nom. C'est chaud, c'est fort, c'est envoûtant, à vous faire rougir de plaisir.
Grégory Cohen et sa recette que l'on peut retrouver sur son compte Instagram, Grégory Cohen off avec
deux F.
Et vous m'avez fait cet été des linguinés à l'ail et au piment. Je m'en souviens encore, mon cher Grégory.
Ah bah d'accord, et nous on n'était pas
invités. Bah, il vous en apportera la prochaine fois.
Il y en a d'autres qui étaient là.
Dans un instant, la chronique sexe de Maya Mazorette. En mangeant des penne all'arrabbiata, ça risque d'être pas mal. Et on écoute l'impératrice, Emma Thom.
Ne me parle pas de sentiments, je sais déjà qu'on se mentirait. T'es bien meilleur quand tu fais semblant, derrière l'écran, plutôt qu'en vrai. Tu dis j'aime, qu'est-ce que t'aimes vraiment? Tu confonds le cœur et l'intérêt. Si tu veux jouer au compliment, fais le plus fort que je le fais. Je t'ai tellement regardé sans rien dire.
paraître à tes yeux des aimants. N'oublie jamais que je suis tout à toi, autant qu'à eux, vivement. Identique, c'est la photocopie. On ne peut compter que sur nos doigts. Je me lève à l'heure du photocall pour être sûr que tu me vois. Je t'ai tellement regardé sans rien dire. J'aurais pu compter tous tes atomes. Je voudrais m'en aller, mais j'ai rien à fuir. J'étais dans la peau comme un hématome. Qui sait réparer les gens qui se brisent? Personne ne voit mes yeux qui s'épuisent. La force d'y croire, j'oublie que ce monde est faux.
L'impératrice interprétée Emma Thom.
Et bim, on s'y met tout de suite.
Oh, il est magnifique.
Tu peux obséder par le sexe.
Grand bien vous fasse.
C'est juste que je ne peux pas m'empêcher d'y penser.
Oh, tu m'entends.
Sur France Inter.
La chronique sexe de Maya Mazorette. Alors après, comment choisir son vin, Maya, tu nous expliques comment choisir son homme.
Eh oui, car il y a beaucoup de variétés d'hommes, avec chacun ses saveurs, ses origines, un déploiement différent en bouche. Résultat, ça nous est tout arrivé, guillemette. On hésite en boutique, on se contente de lèche vitrine, on galère pour trouver l'accord parfait. On a peur que l'homme soit bouchonné.
On rentre vite de temps en temps. Oui.
Ensuite, on sait ce qui se passe, on finit par le laisser traîner à la cave. Mais relax, tout ira bien, je peux vous aider. La semaine dernière, je vous ai parlé d'une étude IFOP concernant la sexualité des Françaises. Étude assez encourageante puisqu'on y apprenait que 77% d'entre elles sont heureuses en amour et 72% sont heureuses au lit. Or, quand on étudie le profil de celles qui sont le plus heureuses, il se dessine en creux le portrait des hommes qui les rendent heureuses et donc les hommes qu'il faut choisir.
On t'écoute.
Premier réflexe, on regarde la bouteille, l'étiquette, c'est important. Les femmes qui trouvent leur homme beau ont tendance à être plus heureuses. C'est aussi le cas des femmes qui se trouvent elles-mêmes belles. Alors je sais que certains experts biaisés disent que l'apparence n'a pas d'importance et qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, blablabla. Mais l'amour et la sexualité reposent sur des interactions physiques, donc ne pas négliger le physique. Ensuite, évidemment, la question du cépage. Là, vraiment, c'est vous qui voyez. Pas besoin de vivre à Dubaï ou Venise ou même en ville pour être heureuse en couple. Pas besoin non plus de partir sur des appellations prétentieuses du genre « il me faut absolument un chirurgien ou un héritier ou Timothée Chalamet ». Le bonheur conjugal ne repose ni sur la richesse, ni sur les diplômes, ni sur la classe sociale. S'il fallait des verres en cristal et des nappes en soie sauvage pour apprécier un petit coup, ça se saurait. Parmi les autres facteurs qu'on pourrait croire importants et qui ne le sont pas, la religion à peu près aucune importance et la présence ou le nombre d'enfants pas important non plus.
On passe à la dégustation ?
Mais j'espère bien, Ali, voilà, là, comme je suis coquin aujourd'hui. Pouh. Côté caractère, choisissez vos hommes goulayants et généreux. Les femmes sont d'autant plus heureuses que la relation développe une belle complexité en bouche avec à la fois du désir et de l'affection. Il faut des sentiments forts, sans être agressif évidemment, ni astringent. Il faut aussi bien sûr un partenaire qui s'intéresse à notre plaisir. Et là, Thibaut de Saint-Maurice me demande « quid de l'âge ?» Et ça, clairement, ça a de l'impact.
C'est pas sympa, ça. C'est pas
sympa. Oh là là. Bon, je te rassure, Thibaut. Le vin peut être jeune ou vieux, mais plus la relation avec le vin est jeune, plus on bénéficie de ce que les anglo-saxons appellent la « new relationship energy », c'est-à-dire l'énergie des débuts amoureux, celle qui nous donne des ailes. Alors, bien sûr, la norme monogame fait qu'on a tendance à désirer des hommes de garde qu'on pourra laisser vieillir en fût ou sur de la terre battue. Mais selon l'IFOP, il n'est pas absurde de se laisser tenter par une petite nouveauté de temps en temps. Je dis ça, je dis rien, je me déresponsabilise totalement de ces statistiques. Enfin, le point crucial, c'est le niveau de consommation. Là, vraiment, contrairement au vin, les hommes se consomment sans modération. Les femmes malheureuses sont essentiellement celles qui sont exclues du marché amoureux, donc les célibataires.
Alors, en France, on est la nation du vin et des French lovers. Est-ce qu'on a des goûts particuliers ?
Oui, on est français, comme chacun sait, on est relou. Snobisme oblige, les attentes des femmes françaises sont plus élevées qu'ailleurs en Europe. Notre satisfaction est donc plus faible que dans les pays qui nous entourent. Et ça ne devrait pas nous surprendre, voir le verre à moitié vide, c'est très français. Est-ce que je résume ? Allez, pour choisir son homme, il faut beaucoup d'amour, des partenaires désirables et qui nous respectent. Le prince charmant millésime 2021 n'a pas de couronne en or, mais un cœur en or. Il n'a pas besoin de tuer des dragons, mais il peut s'armer d'un tire-bouchon. Il n'a pas besoin de destrier, mais de désirer. Et côté palais, on se contentera de sensibilité pendant la mise en bouche. Bien sûr, ce guide de consommation n'est que statistique, mais si vous voulez que ça coule de source à la maison, sans trop trinquer, sans gueule de bois, sans crise de foi en l'amour, faut investir avec sagesse.
Grégory, un commentaire ?
Ah moi je buvais ces paroles.
Ça me fait plaisir.
Julien,
j'attends la médaille d'or de Philippe Salon.
Thibaut,
non, c'est une très belle feuille de route. On va tous se mettre à essayer de satisfaire ces critères.
La chronique sexe de Maya Mazorette à partager et à podcaster à deux, à plusieurs. On se retrouve avec un verre à la main, avec modération. Le coup de cœur de la semaine, c'est Suzy, 14 ans, qui a appelé le standard de France Inter mercredi dans Grand Main Vous Fasse, dans l'émission consacrée aux adolescentes, solaire et pleine d'espoir pour les ados qui se font harceler, à écouter ou à réécouter en podcast sur toutes les plateformes. Et c'est ainsi que s'achève Grand Bien Vous Fasse. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 9h30 sur France 2 dans l'émission Bel et Bien, en compagnie d'Agathe Le Caron et de Christophe André, avec une question: peut-on tout se dire, hein, Maya? Et lundi, dans Grand Bien Vous Fasse, plus sérieusement, une émission santé consacrée à un problème très important, l'AVC, comment prévenir et soigner un accident vasculaire cérébral. Vous pouvez d'ores et déjà nous laisser un message ou une note vocale sur l'appli France Inter. Bon week-end à l'écoute de France Inter.